France Culture.
À voix nue, Lisa Vignoli.
Sophie Fontanelle, j'écris.
Deuxième épisode, le journalisme pour marchepied. Bonjour Sophie Fontanelle.
Bonjour.
Hier, nous avons évoqué votre famille arménienne, votre enfance et cet instinct ou cette envie de devenir une artiste. Les premiers textes, des chansons, des poèmes, mais aussi votre frère. Dans cette enfance, il était le beau, disiez-vous, et vous, l'intelligente. Quand il a été question de choisir un métier, il faut bien reconnaître que vous avez choisi le sien, d'une certaine façon. Indépendamment de cette coïncidence qui n'en est pas vraiment une, comment a commencé le journalisme pour vous ? Ce n'était pas du tout votre intention au départ d'embrasser ce métier.
Ah non, moi je voulais faire carrière dans la chanson. Mais quand j'ai vu que c'était difficile, j'ai continué mes études. J'ai fait des études de lettres en prenant les plus faciles pour pouvoir continuer d'écrire et au cas où. J'ai fait des lettres modernes spécialisées. C'était pas difficile. Et là, en faisant ces lettres, il fallait faire à un moment donné, à la quatrième année, un stage. Je suis allée aux Nations Unies. J'aurais pu faire une carrière de terminologue. J'avais un peu de piston, donc ça aide. J'aurais vraiment pu m'engager dans cette voie. Mon oncle travaillait aux Nations Unies, les choses étaient plus faciles que pour certaines autres personnes. Et puis je suis revenue à Paris, une amie, elle, était au Matin de Paris. Et elle allait interviewer Gainsbourg, Jane Birkin, enfin, elle allait au défilé de mode. Et je me suis dit, mais quelle chance elle a. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu viens pas faire un stage, toi aussi, avant de retourner aux Nations Unies, parce que normalement je devais retourner là-bas, pourquoi tu viens pas faire un stage au Matin de Paris ? Je suis arrivée et j'ai fait un premier papier, je me souviens, peut-être le deuxième jour, et une journaliste, Christine Bravo, est montée, c'était la star du journal, elle est montée, elle a dit « Qui a fait cet article ?» Je me suis dit, elle m'a m'engueulée, j'ai dit « C'est moi ». Et elle me dit « Qui tu es ?» J'ai dit « je suis là, je fais un stage, moi je vais pas rester. » Elle m'a dit « Si, tu vas rester. » Tu vas rester dans ce journal et tu vas rester dans ce métier. Et voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Je suis restée. Je suis pas partie.
Vous vous souvenez de ce premier papier ? Qu'est-ce que c'était ?
Je crois que c'était sur Caroline Carlson. Mais c'était une dépêche AFP qu'il fallait... À l'époque, on disait tu coupes et tu colles. Mais vraiment, il fallait couper et coller avec des ciseaux et de la colle. Mais il fallait l'arranger un peu. Et je savais pas, en fait. Je savais pas comment il fallait faire. J'avais pas fait d'école de journalisme. On me disait l'info d'abord, etc. Donc je sais plus ce que j'avais fait, mais j'avais fait ça de manière très personnelle. Et en plus de ça, j'admirais beaucoup Christine Bravo. Et elle avait fait un papier sur la préhistoire et ça commençait Diplodocus était gros. Et je mets, pour moi, c'est de dire, bon, si on a le droit de faire ça, ben, je vais le faire. Hein. Et je suis partie, comme ça, bille en tête. Ce qui m'a amené assez vite à avoir une chronique dans ce journal. Quand même au bout de quelques mois, mais à peine, je ne sais pas, ça a été en un temps record.
Chronique dans un journal où les autres chroniqueurs à l'époque, c'était Bernard Pivot.
Oui, on était cinq, et il y avait Pierre Ajam, Bernard Pivot, Pierre Desproges, je crois, Christine Bravo, qui était vraiment une vedette du journalisme à cette époque. Moi, j'avais dit au directeur du journal, mais si jamais j'y arrive pas, il m'a dit si jamais... Vous n'y arrivez pas, c'est moi qui aurais l'air d'un con, donc je vous conseille, Fontanelle, d'y arriver. Et j'ai fait cette chronique. En fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, je vais vous dire, c'est que, comme au lycée, j'étais habituée à ce que tout le monde m'écoute, en fait, je me suis dit, ça continue. Évidemment qu'il fallait refaire des papiers, évidemment que parfois, c'était pas bien. Enfin, j'ai évidemment fait des erreurs, j'ai dû apprendre plein de choses, mais j'avais... Je me disais, bon ben... J'ai un don, comme on dit, j'ai un fluide, quoi. J'ai compris que j'avais de l'or dans les doigts, alors que ça me rapportait pas vraiment beaucoup d'argent de faire du journalisme à cette époque-là.
Le Matin de Paris, c'était un quotidien qui était un journal créé à la fin des années 70 par Claude Perdriel, assez engagé à gauche. Il y avait aussi quand même, en dehors des chroniqueurs, il y avait aussi tout un monde de journalistes chevronnés qui faisaient de l'enquête, de l'investigation, le côté fin limier qui allait chercher des pistes et tout ça. Ça, c'est pas du tout quelque chose qui vous faisait vibrer, vous. C'était pas comme ça que vous voyez votre métier.
Non, mais ça m'a été très utile de voir fonctionner un journal, parce que j'ai bien compris que ça ne pouvait pas être ma vie. Celui que j'adorais, c'était Alain Rioux, qui était très poétique, et il était jamais là au journal, mais quand il y avait un mort, il apparaissait, parce qu'il fallait faire le papier, on lui donnait des monceaux de documentation, il lisait les deux premières pages, et après, je pense, il inventait le mort.
Il était plutôt journaliste culturel, Rioux.
Oui, il était au service culture, et il était très doué à faire la légende d'un cher disparu. Je me sentais plus proche de lui, et sinon, tout ce que les journalistes aimaient, c'est-à-dire enquêter, trouver une info, avoir leur mug près de leur machine à écrire, deux, trois éléments de leur vie personnelle qui là en objet transitionnel. Tout ça, ça me rasait. Moi, mon bureau était vide, il y avait la machine à écrire dessus, rien dans les tiroirs, rien. Je détestais, je passais en fait. J'étais là, je ne voulais pas prendre racine dans un journal. Ça, de toute manière, prendre racine, ça ne me ressemble pas.
Donc vous êtes resté quelques années quand même, sans prendre racine.
Je suis restée 5 ans, j'ai vraiment appris beaucoup de choses.
Sans jamais poser un mug sur un bureau, 5 ans, c'est...
Oui, c'est pas mal. Hein. Une fois, on m'a dit que je pouvais venir aux grandes conférences de rédaction, par exemple quand je remplaçais un chef de service, bon ça m'a désespérée. J'aimais pas cette ambiance, et je la trouve à la fois fantastique, parce qu'ils sont... Enfin, c'est truculent, hein. C'est le seul mot à dire des journalistes, c'est que c'est vraiment truculent, tout le monde s'engueule, mais ça me plaisait pas, il y avait des rapports de force très 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 violents, je détestais ça, moi ce que je voulais c'était qu'on me laisse dans mon bureau seul, où j'étais pas seule parce que c'était pas un bureau seul, et que je puisse écrire. C'est pour ça que j'ai adoré plus tard être seule dans mon lit à écrire un article, carrément là on arrivait au nirvana, il y avait plus de bureau.
Et vous parliez tout à l'heure du style de Christine Bravo, qui pouvait commencer un article comme elle le faisait. Comment vous avez forgé le vôtre, vous diriez, puisqu'il n'était pas dans la veine d'un style journalistique classique?
Il est venu de plusieurs éléments, de l'incroyable humour qu'il y avait dans ma famille. Là, quand j'entends parler Zao de Sagazan, je me dis, ah ben, on est vraiment frangine, parce que moi aussi, j'ai vécu dans un milieu où tout le monde parlait à tort et à travers, et où le verbe était important, l'élocution était importante. Donc, j'avais ça, c'est-à-dire que j'avais pas peur de m'exprimer, et je lisais beaucoup. Donc, j'étais baignée par quelque chose de très littéraire. Sans être empoulé, c'est-à-dire qu'on pouvait pas à la fois, si on mélangeait le bavardage de ma famille avec ce que je lisais à l'époque, je sais pas, Romain Gary, des choses comme ça, on pouvait pas obtenir quelque chose de être un littérateur, quoi. Ça, c'était forcément vivant. Et puis, comme je ne connaissais pas les règles du journalisme, je savais pas comment on place les guillemets, les choses comme ça, donc je faisais beaucoup de discours indirects. Enfin, bon, j'ai inventé mon style, je sais pas comment dire.
Et puis, si toutefois il y avait eu une once de classicisme dans le vôtre, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, le dernier verrou a sauté avec le magazine pour lequel vous avez quitté finalement le Matin de Paris, qui était Cosmopolitan. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'était ce magazine à l'époque? On disait Cosmo.
Ah oui, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se rendre compte de ce que c'était. Cosmopolitan, c'était un magazine hilarant. Voilà, c'était hilarant. C'est un magazine féminin, hilarant, qui disait « j'ai le cul entre deux hommes, je suis heureuse mais je m'emmerde », enfin des choses comme ça, qui traitait de sujets beaucoup plus sérieux, certes, mais c'était pas ce que je faisais. Et je suis entrée dans ce journal, tout me plaisait, parce que c'était drôle, j'adorais cette rigolade permanente, c'était exigeant, c'était Place de la Concorde, quasi. Donc, tout d'un coup, il y avait une vie... Enfin, j'avais l'impression de vivre dans un grand hôtel. J'étais payée 2 fois plus qu'au Matin de Paris. Suite à un mensonge, quand on m'avait demandé combien je gagnais au Matin de Paris, j'avais un peu gonflé mon salaire. Donc, j'avais un très bon salaire. Et puis, j'étais augmentée. Enfin, j'avais l'impression d'avoir une vie de rêve. D'avoir atteint presque un plafond de verre. On en était loin, mais j'étais au nirvana. J'écrivais que des choses drôles. Voilà.
Et pas énormément, en plus. C'était pas un rythme... Ça changeait avec le rythme précédent.
Il fallait faire un article par mois. Et on disait, je vous laisse, et on revenait 10 jours plus tard, parce qu'on allait écrire son article, que j'écrivais en 2 heures. Donc c'était vraiment le bonheur.
Donc là, vous êtes à Cosmo. Et vous travaillez pour la deuxième fois dans un journal, mais journaliste ne vous semble toujours pas le terme approprié. Malgré tout, ce métier que vous n'avez pas vraiment désiré vous a rapproché de l'écriture. On va y venir, on va même consacrer tout un épisode à votre œuvre littéraire. Est-ce que vous diriez quand même que c'est lui, ce métier, qui vous a éloigné pour toujours de la crainte de la feuille blanche? Est-ce qu'il vous a permis de passer le cap vers l'écriture de livres?
Alors, j'ai dit, c'est vrai, je n'ai jamais trop eu l'angoisse de la feuille blanche. Mais quand j'ai vu, quand j'ai compris, en fait, à Cosmopolitan, à quel point l'écriture pouvait passer par ce qui me passe par la tête. C'est-à-dire que prendre la crème sur le lait. Quand j'ai compris ça, ça m'a libérée complètement. Et ça m'est pas venu parce que j'étais genre géniale. Ça m'est venu parce que au début, j'arrivais pas à faire les papiers à Cosmo. J'essayais quand même de penser, comme on dit, d'être très, de prouver mon intelligence. Voilà. Et la directrice du journal, Juliette Boirivo, une femme vraiment brillante, m'a dit, écoutez, à déjeuner, je vais vous mettre à travailler avec quelqu'un qui est là depuis longtemps et qui va vous aider à faire l'article, qui va vous apprendre. Moi, j'étais humiliée parce que j'avais l'impression d'être un petit génie et puis tout d'un coup, pas du tout. Et la jeune fille qui était là pour m'aider, la jeune femme qui était là pour m'aider, je la prenais pas vraiment pour sortie du Collège de France. Vous voyez, je me disais, je vais quand même pas apprendre quelque chose de cette fille. Ben, j'avais bien tort parce que mon papier s'appelait « Comment parler de ce qu'on ne connaît pas ?» Et elle me dit, t'arrives pas à le faire. Bon, pourquoi? Ben, je dis, parce que tu comprends, c'est pas si facile de dire comment parler de ce qu'on ne connaît pas. Écris, c'est pas si facile de parler de ce qu'on ne connaît pas. Et elle me fait écrire tout ce que je disais d'aberrant, elle me le fait écrire. Quand je lui dis, enfin, il y a quand même des gens qui savent reconnaître un chef-d'œuvre, tu dis, écris, il y a quand même des gens qui savent reconnaître un chef-d'œuvre. Et puis, de fil en aiguille, elle me dit, d'accord, t'es devant le chef-d'œuvre. À quoi tu le reconnais? Et moi, je dis, tu comprends. Et là, je partais dans des théories. Et elle me dit, il n'y a pas un cordon de sécurité devant le chef-d'œuvre. Et tout d'un coup, je comprends. Elle m'emmène dans l'humour, en fait, qu'il y a un vigile devant le chef-d'œuvre, que si on touche au chef-d'œuvre, il sonne. Et qu'il y a un homme habillé comme un instituteur qui regarde un autre tableau que le chef-d'œuvre avec un air inspiré parce qu'on ne la lui fait pas. À côté, et tout d'un coup, même là, vous, pendant que je vous le dis, vous rigolez. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai compris ce que c'était que l'humour, en fait. Parce que moi, j'écrivais, il y avait une légèreté, mais là, elle m'a fait sortir de moi l'absurdité du monde. Elle m'a fait un cadeau immense.
Et vous avez le sentiment, justement, que c'est ça, en fait, cette désacralisation un peu du métier d'écrire, qui fait, indépendamment du temps que vous avez, parce que vous nous disiez que vous avez du temps à ce moment-là, vous faites un papier par mois avec beaucoup de temps pour l'écrire, que vous passez le cap, et c'est à cette période-là, quand vous êtes chez Cosmo, que vous écrivez votre premier roman, Sacré Paul, dont vous nous avez parlé.
Oui, parce que j'avais tellement de temps que j'ai fini. J'en avais écrit d'autres, des romans, des pièces de théâtre, des poésies. Là, j'ai commencé, tout simplement, j'ai commencé, mon père est mort, et je me suis dit, tiens, je vais faire la liste, ça s'appelait au début 675 moments où on voit l'âme de Paul. Donc c'était juste la liste des moments où, selon moi, on avait vu l'âme de mon père durant sa vie. Il s'appelait Paul. Et puis, en travaillant, j'ai commencé, avec le temps, à me dire, oh, mais je pourrais peut-être aider un peu plus les gens, pas juste faire des sortes de phrases, comme ça, des aphorismes. Et je suis rentrée dans l'histoire et j'ai écrit le livre.
Oui, là, on est en 95, vous recevez le prix du premier roman, donc pour ce livre. Vous n'allez pas le chercher, on en reparlera dans notre épisode consacré à votre chemin littéraire. Mais pour l'heure, vous allez, à ce moment-là, malgré tout, prendre un virage tout autre, qui est celui de la télévision. Vous quittez Cosmo et vous rejoignez Canal+. À quoi ça ressemble à ce moment-là, cette émission, Nulle part ailleurs?
Au moment où on me propose d'aller à Nulle part ailleurs, l'émission est culte. Elle est déjà culte de son vivant, quoi. C'est vraiment, c'est la plus grande émission de télévision française, la, la plus chouette. En 2 secondes, je quitte Cosmopolitan. Je me souviens de Juliette Boirivaud me disant « je ne peux pas lutter ». Elle savait, c'était irrésistible, si vous voulez. On me proposait quelque chose d'irrésistible.
C'est l'époque où on dit de Canal+, ça ne se refuse pas.
Non, ça ne se refusait pas. Et puis, c'était tout ce chemin vers quelque chose de superficiel. Je m'allégeais. Tout d'un coup, la télévision, il n'y avait même plus à écrire, quoi. En fait, il fallait un petit peu écrire, mais à peine. C'est la seule fois de ma vie où j'ai eu le trac. J'ai la première émission, parce qu'il fallait engager son corps. En fait, quand on est à la télévision, on n'engage pas que ses mots et son cerveau, on engage son corps. Et je me souviens que tout d'un coup, j'avais une jupe grise, claire, et j'ai dû mettre un pull autour de ma jupe, parce que tout d'un coup, tout était totalement trempé, en fait. Je sais pas, c'est des trucs qu'on ne devrait pas raconter, mais beaucoup de gens vivent ça. C'était comme si je mettais tout mon être, en fait, coulait de terreur. Je suis rentrée chez moi le soir, je me suis regardée, parce qu'on pouvait, avec le magnétoscope, s'enregistrer, et je me suis dit, c'est terminé, je n'aurai plus jamais peur. Et dès le lendemain, j'avais plus peur. J'ai dit, c'est fini, sinon tu t'en vas de ce métier, si c'est pour avoir peur comme ça.
Et puis le trac, c'était nouveau pour vous, apparemment.
Tout à fait nouveau. Mais tout le monde avait le trac. Il y avait ceux qui vomissaient, ceux qui avaient d'autres manifestations. Tout le monde, ceux qui avaient la peau qui se mettait à rougir. Tout le monde avait peur. Ça fait très peur. Mais ça fait peur une fois. Ça fait pas peur à chaque fois. Ça fait peur la première fois.
Qu'est-ce que vous passez 5 années là-bas? Vous découvrez la notoriété, la célébrité, le fait d'être reconnu dans la rue à une époque où, vous le disiez, l'audience est maximale. Et aussi, d'une certaine façon, vous êtes un peu avalé par ça, parce que même si vous n'écrivez pas énormément pour l'antenne, vous n'écrivez pas une ligne à côté. Est-ce que ça vous aspire?
Là, pour le coup, on n'a pas le temps d'écrire. C'est que c'est pour ces quelques minutes d'émission, il faut travailler toute la journée. Ou en tout cas être là avec le mug, parce que de nouveau on retrouve le cauchemar. Il y a le mug, il y a les photos de la famille, il y a les affaires des gens, leur foutoir, enfin tout ce que je déteste, tout est là. Et quand on veut faire la sieste, on la fait là-bas, dans des lits qu'il y a pour vous permettre de faire la sieste. On vit enfermé complètement dans un bocal, on disait, le bocal. Et je pouvais pas écrire, mais j'ai fini quand même par écrire sur ça, sur exactement ce que je viens de vous dire. J'ai aimé cette vie. La notoriété ne m'étonnait pas, me semblait une chose normale, puisque je n'avais pas oublié qu'à 9 ans, je montais sur les tables. Ce que je découvre, c'est qu'on ne fuit pas à la télévision son physique. Donc un jour, dans un feu, j'étais dans une voiture avec une amie, et il y a un homme qui m'a regardé, 2 jeunes garçons qui m'ont regardé, et il y en a un qui a dit « c'est la fille de la télé », et l'autre m'a regardé et il a dit à son copain « la différence, oh là là, grave !» Donc
Entre l'antenne et la vraie vie.
Ben voilà, il me trouvait bien moins bien dans la vraie vie qu'à l'antenne. Et aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, c'est que maintenant, je suis très populaire maintenant sur Instagram, les gens me disent l'inverse dans la rue. Je me dis, j'ai dû faire un sacré chemin. Ils me disent, je me trouve plus belle dans la vie que sur Instagram. Bon, tout a bougé.
Donc vous découvrez à la fois qu'on s'expose vraiment, son physique, son image, et vous découvrez aussi, donc vous le disiez, ce trac. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez au début la peur? Ça tient à quoi? À cette surexposition, justement?
Si vous me poussez dans mes retranchements, et on va dire que vous m'y poussez, mon frère m'avait dit, ils t'ont choisi, mais... Quand ils vont faire le pilote, ils vont voir que ça va pas, parce que physiquement, la télévision, c'est toujours de très jolies filles, il m'avait dit. Et ensuite, il m'avait dit, ils vont voir que ton visage n'est pas symétrique. Ce qui m'a amené, le soir de la première émission, à prendre une règle et à voir qu'en effet, mon visage n'était pas symétrique. Avec le magnétoscope, j'ai figé l'image et j'ai regardé mon visage. Donc je pense que j'avais peur de ça, et c'est ça que j'ai surmonté. Et c'était ma victoire, c'est que j'ai dit... ça a été peut-être une des premières fois où je me suis dit, en fait, on s'en fiche que je ne sois pas la plus belle. Je vais avoir ma beauté à moi. Et on devrait tous se dire ça, mais ça met des années.
Votre beauté à ce moment-là que vous développez, c'est votre esprit, un humour, un souffle. Ça ressemble à quoi, ce que vous faites?
Non, ma beauté, là, je parle vraiment de beauté physique. C'est que tout d'un coup, j'ose me montrer ma tête. On est maquillé, on est sublimé. Hein. C'est en plus à Canal+, il y avait très très bon maquilleur. Et j'avais l'impression que sur un malentendu, il y avait quelque chose de joli. Et j'ai maintenant, quand je regarde, je me dis, c'était ni beau ni pas beau. J'étais jeune, j'étais bien, quoi. Mais ce propos était si important pour moi que je pouvais pas passer à côté.
Est-ce que vous avez l'impression, à ce moment-là, que vous avez réussi à rester vous-même ? Ou est-ce que vous êtes fondu dans un rôle attendu pour cet endroit-là, justement ?
Je suis restée totalement moi-même à Canal+, et il faut bien reconnaître que cette chaîne autorisait ça. On ne m'a jamais demandé de modifier quoi que ce soit à ma manière d'être. Et je me souviens d'une fois où Jérôme Bonaldi m'avait dit « Je te demande de ne pas commencer comme ça, parce qu'à la télévision, on ne commence pas comme ça. » Et me souvenant de mes cours de Cosmopolitan, quand ça a été mon tour de parler, j'ai dit « Jérôme m'a dit, ne commence pas comme ça, parce qu'à la télévision, on ne commence pas comme ça. » Et voilà, ça a été ma patte. Ça a été ma patte, le fait que j'osais être si naturelle. À des moments, on était tellement naturels, on se rendait même pas compte que l'antenne avait commencé. J'ai retrouvé ça, tiens, c'est drôle, on parle de ça. Là, c'est quelque chose qu'on retrouve à la radio. C'est que parfois, la radio, c'est tellement intime et naturel qu'on ne se rend pas compte que l'émission a commencé.
Et ce que vous faites, vos sujets, vos marottes, vos intérêts à l'époque, qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble à quoi ?
Ben, mes centres d'intérêt, c'est... je lis énormément. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même beaucoup d'inculture hein, autour de moi, à ce moment-là, à Canal+. Ça ne veut pas dire que les gens... individuellement, sont pas cultivés, hein, loin de là. Alix de Saint-André, avec qui je travaillais, c'est un puits de culture, Frédéric Tadilly aussi. Enfin, mais il y a une ambiance quand même pop culture. La crème sur le lait, à ce moment-là, elle est épaisse.
Oui, on n'a pas le temps d'approfondir. C'est un peu le message. Dans un talk show comme ça, on n'a pas le temps.
Puis d'une certaine façon, ça suffit. C'est une vie pleine de jouissance, hein, si vous voulez, ça vous occupe. Quand on allait à Cannes, mais c'était extraordinaire. On n'allait même pas voir les films, en fait.
Oui, parce que l'émission était délocalisée là-bas pendant toute la quinzaine.
On était comme des rois. Je m'en souviens comme d'un monde, enfin, une parenthèse totalement privilégiée et un peu vide. Mais d'abord, je gagnais énormément d'argent. Dans ma famille, ça correspondait à quelque chose de très important. Quand j'allais chez Darty, parce que je voulais m'acheter quelque chose, il y avait toute ma famille qui venait avec moi parce qu'il fallait pas acheter un frigo, il fallait en acheter pour chaque membre de la famille. Mais j'adorais ça. C'est tout d'un coup d'être le soutien de la famille. C'était chouette, en fait.
Vous avez prononcé la formule « un peu vide ». Vous en avez parlé, vous avez écrit « Le plus jeune métier du monde », donc c'est le titre de ce livre paru en 99 chez Nil, qui raconte votre expérience. Est-ce que vous avez l'impression que c'est ce vide que vous avez emmagasiné pour aller le raconter ? Et est-ce que c'est ce un peu vide qui vous a poussé à partir ?
Ce qui m'a poussé à écrire le plus jeune métier du monde, c'est que personne n'avait écrit là-dessus. Personne n'avait écrit sur ce que c'est que la notoriété, en fait, cette notoriété-là. Ça vient pas parce que vous avez un immense talent. Ça vient parce qu'à un moment donné, vous correspondez à des standards d'une époque qui font que vous passez à la télévision. Et c'était une vie à part, mais tellement à part. Je me souviens d'un amant que j'avais eu qui s'était levé, on va dire après, enroulé dans un drap, et qui m'avait dit, en me regardant comme ça, il m'avait dit « Personne ne va me croire ». C'était ça, la vie que je vivais. Et c'est ce que je raconte dans Le plus jeune métier du monde. Je raconte comment on est pris, on est hissé tout en haut, on devient comme une espèce de petite divinité. Bon, c'est médiocre comme divinité, mais enfin, c'est une divinité. Et je raconte comment tout d'un coup, la chaîne de télévision dit « on en a moins envie, en fait ». Et puis petit à petit, on en a moins envie. Et puis petit à petit, on vous le dit, tu fais moins envie, en fait. Et puis ça s'arrête. Ils sont désolés de vous licencier, parce que je ne suis pas partie. J'ai été virée comme on l'est toujours de la télévision. Ils m'ont dit « ben voilà, c'est la dure loi du sport. Vous dégagez ».
Et ça a été un choc pour vous ?
Ça a été un choc, mais encore une fois, on va pas se plaindre parce que ce sont des endroits où on gagne très bien sa vie et où quand on part, on a beaucoup d'argent. Donc tous ceux qui ont écrit pour pleurnicher qu'ils avaient été virés, ah, ils ont du culot quand même parce que on part mais on peut s'acheter un appartement.
Mais vous étiez heureuse à cet endroit-là, à ce moment-là, vous diriez, avec le recul ou...
Alors, j'ai été heureuse à Canal+, pour diverses raisons. D'abord, parce qu'il y avait une bonne ambiance dans mon bureau, mais bon, ça, c'est pas le plus important. Il y avait Alix de Saint-André, qui était un être d'une grande poésie et qui faisait tout ce métier. Elle flottait, elle regardait ça, elle avait du recul. On parlait tout le temps de bouquins, elle et moi. Et puis, je sais pas.
Il y avait des oasis dans cet endroit, quand même.
Ce qu'il y avait dans cet endroit, c'est que ça pouvait pas durer toute la vie. Mais quand vous avez la chance qu'un truc comme ça vous arrive, ben vous le faites, quoi.
De cette époque, il reste donc ce livre. Et à ce moment-là, on a quand même, je dirais, beaucoup de téléspectateurs et de Français ont pu constater votre esprit. C'est ce qui fait que quand vous partez notamment au sein du magazine Elle, on vous demande de créer un personnage qui serait l'antithèse du journal, de ce journal. C'est la naissance de Faunel, qui nous raconte chaque semaine les expériences de sa vie trépidante. Personnellement, je dirais qu'elle vous ressemble, Faunel. Je dirais aussi qu'elle a réponse à tout. Mais je me demande comment vous la décririez.
Ah, bah Faunel, alors déjà, pour commencer, m'a dit « on aimerait bien que tu viennes écrire pour nous ». J'ai dit « mais je n'ai rien en commun avec ce que vous racontez, la vie de couple, comment garder un homme, enfin je ne sais quoi, toutes ces choses, je ne pouvais pas, à l'époque c'était un peu ça. Hein. »
Les régimes.
Ça a bougé, oui, j'étais très loin de ça, ils m'ont dit ben, « fais exactement comme tu es ». Et j'ai imaginé ce personnage de Faunel. Alors, est-ce qu'elle me ressemble? Pour moi, Faunel, c'est le démon qui est en moi. C'était une conversation par mail entre une fille qui s'appelait Faunel et une fille qui s'appelait Bianca. Faunel était complètement dingue, elle faisait l'amour avec Kadhafi, enfin elle faisait n'importe quoi, et Bianca la raisonnait, voilà. Ces deux personnages sont une seule et même personne, c'est ce qui se passe dans ma tête. Et puis la directrice de Elle à cette époque-là, enfin la personne qui m'avait recrutée à Elle à ce moment-là, moi j'étais sage. Je pensais que l'amour dure toute la vie, devant une personne, et elle était volage. Elle laissait ses mégots n'importe où. Enfin, elle m'énervait. Et donc, j'ai combiné, en fait, son indiscipline avec ma sagesse. Et ça a fabriqué cette conversation qui, c'est vrai, était réjouissante.
Et qui a duré 10 ans.
Ouais, ça, c'est fou que ça ait duré 10 ans.
10 ans, toutes les semaines. Vous avez dit quelque chose, vous venez de dire quelque chose de très important, je trouve. Vous avez dit, j'ai réussi à rester moi-même au sein de ce magazine. Mais j'ai l'impression que partout où vous êtes allé, pour le moment, vous avez réussi à rester vous-même. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est une chance ?
Oui, c'est une chance, mais j'ai même pas besoin de faire usage de la force. La seule chose que je fais, et ma mère me le disait quand j'étais petite, c'est que je dis rien, mais je grogne, je fais... Et voilà.
Merci Sophie Fontanelle.
Merci.
Dans le prochain épisode, nous parlerons donc de ces années au sein du magazine Elle, qui ont nourri et alimenté le personnage de Faunel, mais aussi, surtout, de votre engagement, je dirais, pour la mode. À demain.
À demain.
C'était À voix nue, réalisation Marie Placé, prise de son Yvan Turc, chargée de programme Daphné Abgral, une série de Lisa Vignoli, disponible sur franceculture.fr et l'application Radio France.